sur AFM, le journal. Boris Gouagouni.
Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Bala Keïta, apprécie la collaboration entre les FACA et les casques bleus de la MINUSCA. Une position exprimée suite au déploiement des FACA dans 6 préfectures, ensemble avec les casques bleus. Au village Lakwetene dans la Nanagribizi, la population éprouve d'énormes difficultés sur le plan sanitaire. Merveille Nuila Mada nous en parlera. Rentrée scolaire 2018-2019 et appui des partenaires au système éducatif à Boali. La MINUSCA remet 6 salles de classe réhabilitées et un bloc administratif nouvellement construit dans le cadre des projets à impact rapide.
Dira FM.
Les détails. Nous ouvrons ce journal à Bangui pour dire que le commandant de la force de la MINUSCA, le général Bala Keïta, apprécie la collaboration entre les forces armées centrafricaines FACA et les casques bleus de la MINUSCA. Une position exprimée ce 26 septembre lors de la conférence de presse hebdomadaire de la mission onusienne en Centrafrique. Ce, suite au déploiement des FACA dans 6 préfectures, ensemble avec les casques bleus. Le général Bala Keïta a saisi cette occasion pour expliquer que les FACA ne sont pas sous le commandement de la MINUSCA, mais sous le commandement de l'état-major de l'armée centrafricaine. Le général Bala Keïta, au micro de Fridolin Wambombo.
À chaque fois qu'on doit engager les FACA quelque part, c'est un peu dans le cadre d'actions conjointes. On travaille ensemble, partout. Et pour travailler ensemble, moi je ne commande pas les FACA. Le SEMA ne commande pas les hommes. Mais c'est simple, dans l'armée, on sort un ordre d'opération, je signe et le SEMA signe, le chef d'état-major. On donne à nos troupes. Quand les unités FACA, ils lisent, ils regardent, ils voient la signature de leur chef, ils exécutent. Quand mes troupes la lisent, ils voient ma signature, ils exécutent. Mais les actions sont, on dit, vous le faites ensemble. C'est comme ça qu'on travaille et jusqu'à présent, tout se passe bien. Ils ont quelques insuffisances, on essaie, puisqu'on a beaucoup plus de moyens, on essaie de les aider. Et sur le lieu, on essaie de tout faire ensemble.
Dira FM.
Rendons-nous dans la Nanagribizi, précisément au village Lakwetene, où la population éprouve d'énormes difficultés sur le plan sanitaire. Manque de médicaments de qualité et absence de personnel soignant sont, entre autres, les problèmes évoqués par certains habitants de cette localité. On en parle avec vous, Merveille Nuila Mada.
Avec plus de 1000 habitants, le village Lakwetene, qui est situé à 7 km de la ville d'Embré, ne dispose que d'un seul centre de santé. Une situation qui impacte négativement sur la santé des populations.
On souffre beaucoup et on accouche même à la maison. Nous, les femmes, nous avons beaucoup de problèmes. Les enfants souffrent du paludisme. La couleur de leurs cheveux change tous les jours. Ils ne mangent pas bien. Ils ont le ventre ballonné. On n'a pas de médicaments contre le palud. Je demande au gouvernement et au ministère de la Santé de plaider pour nous auprès des humanitaires pour qu'ils nous viennent en aide.
Patrice Régamé, chef de poste de santé du village Lakwetene, explique ce qu'ils font au quotidien pour venir en aide aux femmes et enfants en attendant le district sanitaire de Kakabandoro.
On travaille en collaboration avec le district de Kakabandoro. Nos commandes de médicaments, c'est le district qui prennent en charge. Nous avons fait part de nos problèmes au district sanitaire de Kakabandoro. Le chef nous a fait savoir qu'il va venir faire le suivi. Raison pour laquelle nous avons demandé aux Pakistanais de nous venir en aide. Ils nous ont fourni des sirops contre la grippe et les parasites. Et autre que les sirops, nous avons aussi les SRO contre la diarrhée. Mais on n'a pas de sirop contre l'anémie et pas de médicaments contre le palud.
À l'heure actuelle, il n'y a que les ONG humanitaires qui œuvrent dans le domaine de la santé qui apportent leur aide aux populations du village. Kakabandoro, Merveille Nuila Mada, de retour d'Embré pour Guéra FM.
Merci Merveille. Cap sur Boali. pour parler de la rentrée scolaire 2018-2019 et de l'appui des partenaires au système éducatif sur place. La MINUSCA vient de remettre officiellement ce 25 septembre 6 salles de classe réhabilitées et un bloc administratif nouvellement construit dans le cadre des projets à impact rapide. L'administration locale et la communauté saluent cet appui de la mission onusienne qui coïncide avec la rentrée scolaire 2018-2019. Nestor Ndikumana a suivi la cérémonie de remise des clés, suivant son reportage.
Avant, les enfants étaient 5 sur un table banc. Je crois qu'avec ça, il y aura 3.
Ce sont les propos de la principale du lycée de Boari qui estime que le besoin de rénovation des locaux sur cet établissement scolaire était devenu plus que jamais nécessaire, surtout avec cette rentrée scolaire où cette école va arriver jusqu'en terminale. Construite depuis le temps de la colonisation, les travaux réalisés sur cette école consistent notamment à la réhabilitation de 6 salles de classe et à la construction d'un bloc administratif. L'administration représentée par Robert Yamo, sous-préfet de Boari, salue cet appui de la MINUSCA qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'autorité de l'État et met en garde contre toute utilisation de ces locaux pour d'autres fins.
Madame la principale, c'est des salles de classe. Nous en avons plein. Vous-même, vous constatez et vous savez ce que je veux dire.
La MINUSCA réitère son appui à l'État centrafricain à travers des travaux de ce genre. Abdou Diouf, coordonnateur des affaires civiles de la MINUSCA pour le secteur ouest.
Cette année, nous comptons réhabiliter les deux ponts Boali-Lambi dans le cadre de nos projets à impact rapide. Par ailleurs, nous envisageons, sous le leadership du sous-préfet, d'organiser une session de renforcement de capacité de tous les chefs de quartier et de groupe dans la sous-préfecture de Boali.
De Boali dans la préfecture de Lombelampoko, Nestor Ndikumana, Gira FM.
Merci Nestor.
Gira FM.
Terminons ce journal sur la relance économique après la dernière crise en Centrafrique. Les enjeux socio-économiques et les opportunités de développement. C'est autour de ce thème qu'a démarré ce 26 septembre. Ce jusqu'au 28 septembre prochain, la foire économique sur le terrain UCATEX dans le 8e arrondissement de Bangui. Une activité initiée par la coordination des acteurs économiques locaux du 8e arrondissement, en partenariat avec le ministère des petites et moyennes entreprises, sur financement du fonds Bekou et du consortium constitué des ONG DRC, Mercy Corps et Acted. David et Stéphanini. Le point focal du Fonds Bekou en Centrafrique revient sur l'importance de ce projet au micro de Félicité Yamété.
C'est une initiative très intéressante et qui a comme objectif de soutenir 1500 acteurs économiques locaux sur Bangui à travers beaucoup d'appui en termes de formation, d'encadrement, de suivi. C'est un projet vraiment intégré et aussi assez novateur qui vise à soutenir le secteur des petites et moyennes entreprises sur Bangui et sa périphérie et aussi à Boa. Voilà, que nous on est à côté en effet de tous ces entrepreneurs avec les gouvernements, avec les ministères concernés. On soutient vraiment tous les jeunes, les femmes, les hommes centrafricains qui ont des idées, qui sont entrepreneurs, qui ne vont pas épargner leurs efforts, leur créativité pour redynamiser leurs activités. Voilà, nous, s'il y a ces pas en avant, on est à côté avec eux pour les soutenir dans ce processus de relance économique et sociale. Donc, comme vous le savez, c'est surtout l'agriculture et l'élevage qui dominent en termes d'activité économique dans l'arrière-pays. On va démarrer d'ici quelques semaines plusieurs projets dans les zones du nord-est, du nord-ouest et dans les centres-sud pour soutenir toutes les coopératives et les groupements. Donc, financement sur Bangui et autour de 11 millions, donc 7 millions pour soutenir les acteurs économiques locaux et 3 millions pour soutenir les secteurs de la microfinance en RC.
Gira FM, dossier sport.
En page de sport, championnat de la Ligue de Bangui de football. Au programme ce jeudi à 14h en 2e division, l'Espérance Football Club du 5e arrondissement affrontera le club Mbangré. Et à 16h en première division, le Real Comboni affrontera l'Asset de Gobongo. Football toujours, 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Nous sommes à 14 jours de la double confrontation entre la RCA et la Côte d'Ivoire. La RCA jouera le 12 prochain à Boaké contre la Côte d'Ivoire. Et le match retour aura lieu 3 jours après à Bangui. Notons que ces deux équipes occupent la 2e place du groupe H, juste derrière la Guinée-Conakry. Pour espérer se qualifier, les Fauves doivent impérativement remporter les 6 points ou au moins 4.
L'invité de la rédaction.
Face à la situation déliquescente des espaces protégés, des zones cynégétiques ainsi que des sites touristiques de la RCA, Florent Zouaya, l'expert en charge de la coordination institutionnelle et politique auprès du projet Ecofone Plus qui a pris part aux rencontres multiculturelles à Bayanga, présente le tableau peu reluisant de ces sites au micro de Bernard Guiwa. Suivant.
La situation est un peu plus difficile dans le nord-est, un peu dans l'est. Je vous disais tantôt que le nord-est comptait 60 000 éléphants, 2 000 girafes, il y avait beaucoup de rhinocéros. Et on a fait un inventaire courant 2017. On n'a même pas aperçu un seul éléphant, inventaire aérien. On est passé de 60 000 éléphants à un certain moment. On est tombé à 34 000, on est descendu à 5 000, à 1 000 éléphants. Et puis en 2017, on n'a même pas vu un seul éléphant. Bon, heureusement, quand on a fait l'inventaire pédestre en 2018, on a quand même vu les traces de ces éléphants dans le Bamingi Bangwa. Dans le sud-ouest, la situation est bonne. On revient de Bayanga, on a vu beaucoup d'éléphants. À l'est, les éléphants, on commence à voir les traces d'éléphants. Mais d'une manière générale, la faune est en péril en Centrafrique. La conservation de la faune est assurée à travers des projets financés par les partenaires. Ces projets, n'est-ce pas, qui recrutent des éco-gardes ou des surveillants pisteurs. Donc, on n'a pas suffisamment de moyens pour assurer la conservation de notre faune et la gestion de nos aires protégées. Il y a l'insécurité, il y a l'absence de moyens, mais également le fait qu'il y a pas de synergie. Je disais tout à l'heure qu'il faut que tout le monde s'y implique au niveau central et au niveau local. Il n'y a pas les décisions qui sont prises. L'engagement des autorités au niveau central ne sont pas répercutés au niveau local et donc ça pose des problèmes. Donc les gestionnaires des aires protégées ne sont pas suffisamment soutenus. On a fait un certain nombre de recommandations au niveau de Bayanga. Ça va être soumis aux autorités compétentes. Mais moi, je voudrais tout simplement dire que nous sommes en RCA, nous devons nous assumer dans la protection de nos ressources naturelles. Les ressources les plus proches des populations, ce sont les ressources naturelles. La faune est plus proche des populations. Les plantes, les différentes plantes sont plus proches de ces populations. Et en protégeant ces ressources naturelles, on protège les populations. En protégeant ces ressources naturelles, on protège ces populations. On protège les moyens de survie de ces populations. Et ça, c'est vraiment important. Et je dirais également que nous devons prendre conscience de ce que nous devons nous investir également dans la protection de certaines valeurs et des valeurs écologiques, des valeurs que génèrent ces ressources naturelles au profit du pays, mais également au profit de l'humanité. Il y a certaines valeurs. La forêt centrafricaine ou les ressources de la biodiversité de la République centrafricaine contribuent à réguler le système écologique mondial. Et ça, c'est important. Nous devons également mettre en place une démarche pour essayer de vendre ce que ces valeurs. Ne vendons pas seulement le bois que nous produisons, ne vendons pas seulement le diamant, ne vendons pas le café, mais vendons également ces valeurs qui ont une portée, si vous voulez, mondiale. Je crois que le ministre a dit, on n'a pas tous les moyens qu'il fallait pour qu'il le faut, mais on ne peut que s'appuyer maintenant sur nos partenaires. Nous devons prendre devant. Il faut qu'il y ait une certaine volonté, pas seulement une volonté politique au plus haut niveau, mais à tous les niveaux. Nous devons développer une volonté nationale de protection des valeurs que nous avons au niveau de ce pays. Je crois que ce qui est important, c'est que les États-Unis d'Amérique se mettent ensemble avec les autres partenaires pour investir dans la gestion de nos aires protégées. D'où cette rencontre-là. Et vous allez également voir qu'il y a beaucoup d'ONG maintenant qui s'intéressent à la gestion des aires protégées en République centrafricaine. Le collègue là-bas tout à l'heure parlait de WWF qui est en train de préparer un PPP, donc un document de partenariat public-privé avec le ministère des Eaux et Forêts. Il y a WCS également qui a soumis un draft de protocole de partenariat public et privé. Ça va être discuté d'ici mercredi. Donc pour que WCS prenne la gestion des aires protégées du Nord-Est pendant 25 ans. Donc c'est un protocole de 25 ans renouvelable. Shenko a signé un protocole avec le gouvernement de 30 ans ou 40 ans renouvelable. WWF va également faire la même chose. Donc l'État centrafricain s'engage maintenant à déléguer la gestion de ces aires protégées à des ONG spécialisées qui vont rechercher des financements, mobiliser les moyens pour assurer la gestion de ces aires protégées. Voilà maintenant la nouvelle politique. Et dans le nouveau code de protection de la faune, on a fait mention de cela. Maintenant, on va évoluer vers ce partenariat public et privé.
Quels sont, en termes simples, les retombées de toutes les activités qui ont été menées jusqu'ici par les partenaires?
Mais l'idée de mettre en place de ces PPP, je crois que cette idée vient de naître le financement de l'Union européenne dans le Nord, enfin, ça générerait beaucoup de bénéfices pour les populations. On a mis en place ce qu'on appelle les zones synergétiques villageoises et les taxes générées sont utilisées à 65% par les populations locales. Il n'y a que 25% qui rentrent dans la caisse de l'État. Donc il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été construites, beaucoup de centres de santé, de pharmacies. Il y avait même des pensions pour les vieillards. Il y a eu même des bourses pour les jeunes de Bamingui-Bangoran.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le commandant de la force de la MINUSCA, le général Bala Keïta, apprécie la collaboration entre les FACA et les casques bleus de la MINUSCA. Une position exprimée suite au déploiement des FACA dans 6 préfectures, ensemble avec les casques bleus. Au village Lakoetenet, dans la Nanagribizi, la population éprouve d'énormes difficultés sur le plan sanitaire. Merveille Nuela Mada vient de nous en parler. Rentrée scolaire 2018-2019. Et appui des partenaires au système éducatif à Boali. La MINUSCA remet 6 salles de classe réhabilitées et un bloc administratif nouvellement construit dans le cadre des projets à impact rapide.
Dira FM.
Nous avons reçu l'appui technique de Yves Damanzi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Boris Ngwagouni, nous vous donnons rendez-vous à la fois prochaine, toujours sur la 93.3. Dira FM, les zones de la paix.